Le culte, la célébration, quel que soit le nom que l'on donne à ce moment que nous passons le dimanche matin ensemble, c'est non seulement un temps pour élever nos voix, c'est un temps pour être ensemble, et c'est aussi un temps pour apprendre à écouter. Et je crois que pendant ce temps de confinement et de semi-confinement, on a pu développer peut-être un peu mieux que d'habitude cette écoute de Dieu et ce dialogue avec Dieu à travers la prière. Je reçois plusieurs témoignages et aussi plusieurs vidéos qui circulent sur YouTube qui dénotent une certaine proximité avec Dieu qui a cru pendant ces quelques semaines. Et je crois que c'est aussi bon pour nous, ensemble, de pouvoir nous retrouver autour de la parole, de pouvoir nous mettre à son écoute, de pouvoir aussi vous partager ce que voilà, j'ai pu méditer en méditant cette parole et en essayant de vous la retransmettre. Depuis plusieurs semaines, on a décidé, avec l'équipe pastorale, de nous attarder sur quelques disciples qui peuvent nous inspirer. Et on a choisi un axe assez particulier, puisqu'on s'est dit, après Pâques, qui est ce mouvement extraordinaire qui a tout changé le cours de l'histoire des hommes, ce mouvement de vie qui surpasse la mort, on a essayé d'angler toute notre réflexion, toute notre méditation, à travers ce terme « porteur de vie ». En quoi est-ce que je suis porteur de vie comme disciple? Si je crois que Jésus a vaincu la mort et qu'il est vivant, en quoi est-ce que moi, je suis aussi porteur de ce message de résurrection? Et puis, ce matin, j'y ajoute une petite adjonction, je ne sais pas, un surplus, de supplément d'âme peut-être, je ne sais pas, mais pour nous dire comment est-ce que je suis porteur de vie dans la communauté, comment est-ce que je suis porteur de vie pour notre vie communautaire en tant qu'Église et peut-être même plus large en tant que société, comment je suis porteur de vie dans un contexte peut-être plus instable. C'est un peu ce que nous allons voir avec un homme qui m'a particulièrement inspiré dans ces quelques jours qui ont précédé ce culte, qui s'appelle Étienne. Nous allons voir qu'une fois de plus, à travers son exemple et à travers la parole que nous méditons, cette parole, elle nous inspire et elle guide nos manières d'être. C'est ce que nous souhaitons. Et son témoignage à Étienne, je crois que fait particulièrement écho à notre situation de communauté dans un contexte instable. Situation et contexte complètement nouveau pour notre Église en Suisse au XXIe siècle. Ça fait longtemps que nous n'étions plus dans un contexte instable. Étienne, lui, n'a connu qu'un contexte instable. Il n'a connu que ces temps de crise dans le témoignage qui nous est laissé dans l'Écriture. On ne sait pas grand-chose de lui. Il apparaît tout à coup dans le livre des Actes et il disparaît presque aussi rapidement puisqu'il devient le premier disciple martyr, c'est-à-dire qui est mort pour sa foi, mort en proclamant qui était Jésus, ce Jésus porteur de vie et porteur de résurrection. Il y a quelque chose qui nous trouble, hein, pour nous, disciples en Suisse du XXIe siècle, de voir ces témoignages si forts qui se terminent de cette manière-là. C'est impressionnant de voir malgré tout la vie qui se dégage de cet homme. Le contexte dans lequel on le trouve est un contexte clairement de crise. C'est une période de croissance incroyable pour l'Église. On est juste après la première prédication de Pierre qui suit la Pentecôte et des centaines, voire des milliers de nouveaux croyants grandissent et viennent s'ajouter chaque jour à l'Église qui est en pleine croissance. Tout est donc nouveau, tout est donc à construire. Et là, il y a quand même un tout petit parallèle avec ce qu'on est en train de vivre. Là, j'ai l'impression de vivre un culte complètement nouveau, complètement à construire finalement. On doit chercher de nouvelles ressources. Pour eux, c'était ça, puissance 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, mais c'était ça de manière décisive. Ils ont dû trouver des solutions. Et je crois que de nous replonger dans ce livre des Actes des apôtres, dans ces premiers temps de l'Église, ça a toujours été une source d'inspiration pour nous, mais je crois que ça le devient encore de manière plus sensible ces jours-ci, ces temps-ci. Alors je vous propose d'écouter ou de suivre dans vos Bibles la parole dans Actes 6, les versets 1 à 7 pour commencer. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, nous avons vu, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque. Maugréer, on reconnaît le terme, là, comme dans le désert, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 disciples, donc, convoquèrent alors la multitude de tous les autres disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce service aux tables. Quant à nous, les 12, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils choisirent alors Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains en signe de bénédiction. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait rapidement à Jérusalem encore, et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. L'Église naissante, on le voit, grandit en nombre. Ils sont dans une phase de croissance importante, et qui dit phase de croissance, dit problème quasi obligatoire. Et le premier problème, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte qui apparaît, c'est un problème de diversité. Et ça, c'est un terme qui nous plaît beaucoup à la FRAT. Un terme qui fonde d'une certaine manière notre identité, et je crois qu'on a de bonnes raisons de fonder cette identité sur cette diversité. Car dès le début de l'Église, dès les tout premiers instants, on remarque que cette diversité culturelle est d'une certaine manière voulue par Dieu, puisque c'est une des premières choses que les disciples et les apôtres rencontrent dans ce phénomène de construction de l'Église. Il y a des disciples qui parlent le grec, d'autres qui parlent l'hébreu et l'araméen. Deux groupes qui n'ont pas les mêmes sensibilités par rapport à des questions très pratiques. Deux groupes qui ont des contextes différents. Deux groupes qui n'ont pas le même arrière-plan philosophique, ni même peut-être de foi. Et je crois que comme Suisse, on peut tout à fait comprendre cette différence. On peut tout à fait comprendre le fait que d'autres groupes culturels, pourtant partageant le même destin, n'aient pas la même sensibilité que nous. On a peut-être lu ces derniers jours le Corona Graben, qui évoque peut-être une différence de sensibilité par rapport aux Suisses romands, par rapport aux Suisses alémaniques, par rapport à la crise qui nous entoure. Et je trouve que c'est intéressant parce que l'origine de cette dispute, elle est vraiment là, dans l'appréciation de la diversité. Et on va voir qu'elle se résout. Cette diversité n'est pas mise de côté. Il n'y a pas eu une église pour les gens de langue hébraïque et puis une église pour les gens de langue grecque. Ils ont continué leur chemin ensemble parce qu'une communauté mature, elle permet de surmonter ce genre de choses. Et je crois que cette diversité reste dans notre ADN et puis je pense qu'elle se manifeste aussi à travers la manière dont on vit ces cultes. On essaye d'avoir des cultes différents le plus possible, avec des temps de louange différents, des messages différents, comme on l'a vu dimanche passé, parce qu'on y croit fermement au bienfait de cette diversité qui nous maintient ensemble et qui provoque une richesse qui nous dépasse largement. Et je crois que ça, c'est un des premiers enseignements que nous pouvons tirer de cette première Église, c'est que la diversité, dispersion ou pas, elle existe et elle est bonne. La deuxième raison pour laquelle les gens maugrés se disputent, c'est qu'il y a des laissés pour compte. Catégorie de population plus fragile, en l'occurrence les veuves, là, dans ce contexte-là, qui fait de nouveau écho à notre situation actuelle, où l'on voit que les personnes les plus fragilisées sont particulièrement exposées à ce temps de crise. Et là, Étienne intervient, et les 12 apôtres interviennent avec ce mot-clé d'être porteurs de vie. On peut tout à fait résumer leur intention dans leur mission d'être porteurs de vie qui se manifeste de manière très concrète au service des autres. Le but, ce n'est pas de délaisser la partie spirituelle, on l'a bien vu, mais c'est de pouvoir élargir le spectre de l'action communautaire pour dire on va s'occuper en solidarité avec les personnes les plus fragiles et les plus précarisées de la communauté. Et là, je dois dire que j'ai été touché par ces dernières semaines et tout ce que nous avons pu vivre en communauté, par ces multiples actions de solidarité, ces téléphones qui ont été passés à plusieurs personnes de la communauté, de voir ce fourmillement de solidarité, ces réseaux qui se sont créés, parce que souvent j'arrivais puis je me souciais de la qualité du réseau chez les personnes, puis moi, ils me répondaient les personnes, mais oui, il y a mon fils, il y a ma tante, il y a tout un réseau de solidarité qui s'est créé pour soit apporter les courses, soit simplement prendre des nouvelles, soit montrer qu'on fait toujours partie de ce corps qui est l'Église. Et j'ai vraiment été touché par cet élan de solidarité que j'ai observé dans notre communauté. Et là, je crois que, sans vouloir se lancer trop de fleurs, mais je crois qu'on peut dire qu'on a été, en communauté, porteurs de vie. Et nous avons à continuer cet effort parce que je pense que cette crise n'est pas prête de s'arrêter. Nous avons à continuer cet effort porté par le Seigneur. C'est le premier rôle dans lequel on le retrouve, Étienne. Et nous retenons ces deux éléments, que la diversité est une richesse, même s'il peut y avoir des tensions. Et le deuxième élément, cette solidarité qui se manifeste par rapport aux populations les plus précarisées. Et là, la réponse, être porteur de vie dans ces deux situations-là, admettre et accepter la diversité, aller à la rencontre des plus faibles dans un élan de solidarité. On le retrouve encore un chapitre plus loin, c'est-à-dire quelques temps après, en temps biblique, où il est en train d'avoir une confrontation assez violente, il faut reconnaître. On n'est pas toujours dans un univers très apaisé dans la parole. Et on est dans une confrontation entre Étienne et les responsables religieux de son temps. Il dresse, à l'instar de ce que Pierre a pu faire dans Acte 2, toute l'histoire d'Israël pour essayer de leur faire comprendre en quoi Jésus, avec sa mort et sa résurrection, est le Messie attendu. Et il termine par une forme de polémique, il faut appeler un chantique, mais il termine par une polémique qui a trait à la place du temple, c'est-à-dire là où Dieu se trouve, et comment est-ce que l'on peut vivre justement cette dimension du rassemblement des croyants. Et je crois que là, je peux me tromper, mais je crois que ça a quelque chose à nous dire dans cette période, et ça va, je crois, nous inspirer. Alors, je vous propose de suivre un chapitre plus loin, à la fin du chapitre 7, des Actes des Apôtres, on trouve donc la fin de ce discours que Étienne donne aux responsables religieux de Jérusalem. Et voilà ce qu'il leur dit. « Nos pères avaient au désert l'attente du témoignage, on l'appelle aussi le tabernacle, ainsi que celui qui parlait à Moïse avait ordonné de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et après avoir reçu cette tente, nos pères l'ont introduite avec Josué dans la possession des nations que Dieu a chassées devant eux. C'est-à-dire, quand ils ont pris le pays promis, ils ont continué à avoir ce lieu spécial, cette tente, où ils pouvaient se réunir pour adorer Dieu et être en présence de Dieu. Et cette tente, elle y est restée jusqu'au jour de David. David, le grand roi, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui a demandé de trouver une demeure, c'est-à-dire quelque chose de plus stable, pour la maison de Jacob. Et c'est Salomon qui lui a construit une maison. Et là, Étienne proposition à partir de ce verset 48. « Cependant, le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous ? Dit Dieu. Quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? » Et la charge est encore plus violente. « Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné. Vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observée. » C'est chaud, ça cogne et ça va même très mal se terminer puisque Étienne, suite à cette invective, va être lapidé. Premier martyr pour une question de savoir où Dieu se révèle et où Dieu habite. Et malheureusement, ce ne sera pas la première fois que des croyants vont se taper dessus jusqu'à la mort par rapport à cette question-là. On est donc sur un terrain sensible. On est donc sur un terrain qui a un enjeu. Et je crois que ce qu'on vit actuellement nous le prouve. Ce n'est pas si anodin que ça de ne plus pouvoir nous retrouver chaque dimanche. Ce n'est pas si anodin que ça de se dire qu'on est en train de vivre des cultes par vidéo interposée. Il y a un enjeu pour les croyants, même si médiatiquement je trouve que les églises sont les grands absents de ce qui se passe. Pour nous, en tant que communauté, il y a un véritable enjeu. Et je crois que de manière spéciale, ces prochaines semaines, on doit encore plus se serrer les coudes pour conserver cet élan communautaire. D'où ma question, comment est-ce que je peux être porteur de vie dans ce cadre communautaire? Comment est-ce que je peux apporter ma pierre pour que face à une forme d'adversité, nous continuions à tenir bon ensemble? Pour les personnes qui l'écoutent à Jérusalem, les références sont claires. Tabernacle, temple, pour eux c'est évident, ça saute tout de suite aux yeux. Quelles sont les allusions auxquelles Étienne est sensible? En gros, il parle vraiment toujours de ce lieu où Dieu est adoré par son peuple. Et si je dois faire deux catégories, on peut dire que le tabernacle représente la forme mobile, c'est-à-dire que c'était une tente qui était amenée à se déplacer en fonction des mouvements de la nuée qui était dirigée par Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu allait à un endroit, le peuple suivait, et au moment où il s'établissait pour quelque temps, il ne savait pas combien de temps, il construisait cette tente pour pouvoir rendre un culte à Dieu. Donc on a la forme mobile, et de l'autre côté, on a la forme du temple qui est aussi une forme voulue par Dieu, il n'y a jamais d'opposition dans le langage biblique, mais qui nous signale cette présence plus statique, plus solide aussi d'une certaine façon, de Dieu qui se manifeste peut-être plus dans la durée et avec une autre perspective. Avec le tabernacle, on retrouve cette idée que je vous ai partagée quand je suis intéressé à Pierre, de cette idée que d'une certaine manière, nous sommes étrangers sur terre, nous sommes de la dispersion, donc mobiles. Et puis, le temple représente cette forme plus établie, telle que l'Église en Suisse, et c'est aussi une bonne chose, je ne suis pas en train d'opposer les deux, l'a vécu depuis plusieurs dizaines d'années, avec chaque dimanche un culte qui a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Nous sommes donc là, sans galvauder le mot, dans un temps spécial et historique. Stabilité et dispersion. Que ce soit clair, Dieu n'a pas besoin de la frate pour habiter quelque part. Il habite dans nos cœurs, hein. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Et Étienne, dans ce texte, nous dit que ce Dieu n'a pas besoin d'édifices humains pour régner, puisque la terre entière est son marchepied. Mais il a aussi décidé que c'était une bonne chose pour les croyants d'avoir un temple, c'est-à-dire un lieu où se réunir. Et pour nous, on y est sensible à cet aspect-là des choses. On aime bien se retrouver dans notre temple, à nous, dans le lieu que Dieu nous a donné, ici au cœur de la ville de Nyon. Nous aimons notre lieu de culte, nous y avons signifié notre attachement il y a 3 ans, lorsqu'on en a complètement refait pour que nous soyons pertinents là où Dieu nous a placés. Et nous l'aimons, nous y sommes attachés. Ce lieu de culte est dédié à la communion avec Dieu, avec cette magnifique verrière qui nous ouvre, je crois, vers le ciel. Et c'est aussi un temps de communion les uns avec les autres. On l'a vu avec les différents aménagements que nous avons faits. Et cette communion nous fait du bien. Et dans le même temps, on a aussi cette forme beaucoup plus mobile de la communauté qui se vit en petits groupes, les connect groups, les groupes de maison, les groupes pour les différentes classes d'âge, le cathet, les 15-25 ans, les jeunes adultes. Il y a plein de groupes différents qui vivent de manière organique. Et ce serait peut-être plus l'aspect tente, là, l'aspect mobile qui est là. Avec cette crise, nous avons l'occasion de repenser encore un peu mieux cette tension entre stabilité d'un côté et mobilité de l'autre. Actuellement, on est entre deux eaux. On est un peu au milieu du gué, on a fait la première partie, et maintenant on est entre deux eaux parce qu'on est dans une réouverture partielle de notre lieu de culte. Comme vous l'avez vu, on retourne aujourd'hui à la frate, mais bon, on n'est que 4, plutôt qu'une bonne centaine, 150 personnes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de bruit, c'est assez spécial. Et c'est vrai que cette vie, elle manque, elle continue de manquer. Mais n'empêche que ça nous rassure, ça donne une nouvelle perspective pour réouvrir ce lieu de culte. Et vous avez pu voir le magnifique travail qui a été fait pour qu'on puisse être aujourd'hui en direct depuis le cœur de notre ville. Et dans le même temps, il y a ce témoignage d'Étienne. Ce témoignage d'Étienne que je ne me doutais pas de rencontrer avec une telle vigueur. J'avais la conviction que je devais parler ce matin sur Étienne. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai continué à creuser ce sillon. Et j'ai compris pourquoi quand je suis tombé sur cette mise en évidence de savoir où Dieu habite. Alors, soit c'est le hasard des lectures, soit c'est le hasard avec un grand D qui m'a fait tomber sur cette tension entre le temple et le tabernacle. On se bat pour revenir ici. Et en même temps, Étienne nous dit, pourquoi se battre finalement? Parce que Dieu est tout partout, puis il n'a pas besoin d'avoir des lieux précis où retourner. Parce que c'est vrai que le parcours pour revenir ici dans nos locaux, puis envisager d'accueillir du monde, est un peu un parcours du combattant. La longueur des plans de protection pour les églises en termes de pages est impressionnante. Le premier jet du réseau évangélique tenait bien sur 27 pages de recommandations. Vous imaginez 27 pages de recommandations d'hygiène pour pouvoir refaire un simple culte. Pas pour atteindre la lune ou je ne sais pas quoi. 27 pages simplement pour être tous ensemble. Alors, ils ont réduit de 27 à 10, mais ça reste 10 pages de recommandations. Les interlocuteurs qui sont le plus proches de nous dans cette période spéciale, ce sont l'industrie et puis tout ce qui tourne autour du spectacle, tout ce qui tourne autour des arts vivants. Et pour eux, tenez-vous bien, pour revoir quelqu'un qui fait du théâtre ou bien pour retourner au concert, ils ont élaboré un plan de 54 pages. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, on est en train de donner pas mal d'énergie pour essayer de revenir, mais ce temps va s'allonger. Ce temps d'entre-deux va s'allonger. Et dans ce contexte, moi j'étais dans mes plans de protection, j'ai même fait une rencontre Zoom avec tous les autres pasteurs de Suisse romande. On a pu poser nos questions, nos interrogations, comment est-ce qu'on fait. Voilà que je tombe sur ce texte d'Étienne qui nous parle de mobilité avec cette image du temple, du tabernacle, pardon, qui l'oppose au temple. Stabilité contre dispersion. Au minimum, je crois qu'il y a de quoi réfléchir et être interpellé. Et je crois que là, c'est pour moi le charme sans fin de la révélation biblique que dans nos contextes, la parole vienne nous gratter. Il y a peu moins d'une année, en septembre, dans ce même lieu, je vous parlais de croissance de notre communauté et de notre capacité à conserver une certaine mobilité spirituelle et personnelle pour être à même d'accueillir en notre sein des personnes qui désirent trouver un endroit, un lieu, une communauté pour louer Dieu et rencontrer Dieu. On est dans une direction claire. Et je crois que malgré ce changement d'écuyage brutal qui est arrivé le 15 mars, cette caractéristique que je prêchais il y a quelques mois reste complètement valable. Parce que nous avons plutôt bien pris le premier aiguillage, j'ai envie de dire, parce que nous avions cette forme, d'après moi, de mobilité. Et je nous invite vraiment que nous puissions continuer dans ces caractéristiques-là de mobilité, de créativité, et que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on puisse réfléchir devant Dieu, comment est-ce que je suis porteur de vie dans ce cadre-là de mobilité. Notre lieu de culte, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas opposé à la dispersion, simplement il va falloir nous trouver des manières d'être créatifs pour revivre cette communion encore de manière différente ces prochaines semaines. Car ce lieu de fraternité, c'est quelque chose qui nous manque et qui nous fait du bien, qui est constitutif de notre foi. Alors je nous invite que cette tension ne nous disperse pas encore plus, mais qu'elle nous rassemble vraiment autour de Dieu, qu'elle nous rassemble autour de notre foi. Et avec le conseil, on est vraiment preneur de vos idées, de vos manières d'être, de vos témoignages aussi pour savoir comment vous vivez cette période spéciale. Être porteur de vie pour la communauté et être un porteur de vie en mouvement. Comment est-ce que j'envisage de contribuer à la vie communautaire dispersée? Et comment est-ce que je peux apporter ma part pour favoriser la fraternité? Je nous laisse, et à moi aussi, ces deux questions. car nous aurons besoin de cette réactivité, de cette souplesse, de cette créativité ces prochaines semaines. Un temps de crise, c'est souvent un temps de croissance et d'interpellation. Et je crois qu'avec ce premier aiguillage qu'on a bien pris, on est sur la bonne piste pour continuer de grandir ensemble et de ne pas plus nous disperser. Et nous comptons sur l'Esprit-Saint pour qu'il nous réunisse et qu'il nous fasse aller ensemble dans la diversité et dans la solidarité. Que notre Père nous garde, que notre Père nous inspire et que sa parole soit toujours notre guide. Amen.